tapis. Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot International à votre service pour démarrer la semaine du bon pied. Ce lundi au soleil, à Paris, en tout cas, nous allons le passer en compagnie de Karine Galli. Bonjour Karine.
Bonjour, bonjour à tous.
De Salim Bongali, bonjour Salim.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
En compagnie d'Hervé Penaud également, bonjour Hervé.
Ah bah quel plaisir d'être avec vous, des soleils ici, c'est impressionnant. Hein.
Et des consultants qui en connaissent un rayon.
Oh,
rayon de soleil. Vous avez dit qu'on démarrait du bon pied. Allez, Andrew Valente, mon chef.
Bonjour.
Votre chef à tous.
Notre
et
soleil.
Là,
notre soleil.
Le roi soleil, voilà. Du service des sports de RFI. Démarrer la semaine du bon pied. Donc, je vous le disais, les pattes gauches de Messi et Gareth Bale seront justement à l'honneur pour des raisons bien différentes. Rendez-vous en fin d'émission pour parler de la Liga. En attendant, la Ligue 1 et la Première Ligue seront au menu des discussions. Et là, il sera entre autres question d'un pied droit, celui qui a permis à Kylian Mbappé de franchir une barre symbolique, celle des 50 buts inscrits dans le championnat de France. Pied gauche, pied droit, le football se joue aussi avec les mains pour les gardiens de but. En tout cas, Kepa, celui de Chelsea, s'est fait remarquer d'une drôle de manière ce week-end puisqu'il a tout simplement désobéi à son coach. Grosse polémique en Angleterre et pour cause. C'est comme si moi, je refusais que dans Radio Foot, on aborde... je sais pas, Lionel Messi, le Barça. Une telle insubordination n'est pas encouragée, évidemment, dans ce studio Radio Foot. C'est parti.
Il veut pas sortir, Kepa, et de sa Malaga.
Ah, ça c'est drôle.
Alors, qui décide?
Alors on peut avoir quelque chose d'intéressant.
Qui
alors,
décide?
But he's refusing to go. Extraordinary.
Il a intérêt à être très bon, Aretsa Balaga, pendant la séance de tir au
but. Il est fou.
Well, the players won. It's incredible. Absolutely incredible.
C'est vrai que c'est une insubordination assez incroyable quand même.
Never seen anything like this before.
Voilà, il n'a jamais vu quelque chose comme ça avant, nous dit ce commentateur anglais. Scène ahurissante, en effet, à Wembley, ce dimanche, finale de la League Cup, la Coupe de la Ligue. Donc, Chelsea-Manchester City, 0-0, l'arbitre s'apprête à siffler la fin des prolongations. La décision se fera au tir au but. La suite, vous voulez la raconter peut-être, Salman Ghali.
Nous jouons la 118-119e minute et Kepa a des crampes. Oui, un gardien peut avoir des crampes, ça arrive. Donc Kepa est soigné, il reste ainsi sur le sol et là on se dit que va-t-il se passer, Kepa qui reste au sol et Chelsea qui a encore une possibilité de changement. Donc Caballero se prépare, retire son survêtement. Willy Caballero qui a déjà réalisé ce genre de choses, des séances de tir au but, notamment finale de la Coupe de la Ligue 2016 avec City à l'époque, il avait remporté comme ça une séance de tir au but en arrêtant 3 tirs au but face à Liverpool avec une victoire finale donc lors de cette séance. Et donc on se dit Caballero qui rentre, ça peut être une bonne chose, pourquoi pas pour Chelsea, comme on a pu voir des entraîneurs qui ont tenté ce coup-là en faisant rentrer un gardien pour cette séquence. Kepa finalement se relève, on se dit finalement ça va peut-être mieux, on ne sait pas, mais Sarri lui demande sors, et Kepa fait de la main non, je ne sors pas. Séquence visuellement très forte parce que la colère de Sarri, de son adjoint également,
il fait même
Gianfranco Zola,
de quitter le stade.
Exactement.
À un moment donné on pense qu'il va même pas assister à la séance de
totalement
tir au but,
finalement il reste sur le bord de la touche même lorsque le coup de sifflet final est donné. Donc les tirs au but vont ainsi être disputés quelques instants auparavant. Rudiger vient calmer son entraîneur Sarri. Enfin, il y a 5 minutes, invraisemblable, c'est peut-être du jamais vu dans l'histoire du foot anglais, voire même foot mondial.
Derrière, la séance de tir au but, elle est perdue par Chelsea. Kepa, il va notamment avoir la main un peu glissante sur le tir de Sergio Aguero. Ouais. Il va également stopper celui de Leroy Sané. Aussi. Donc, il n'aura pas tout fait mal dans ce match, le portier espagnol. Les deux protagonistes sont revenus sur cette polémique. Kepa s'est excusé via les réseaux sociaux. Sarri, lui, en conférence de presse, a parlé d'un malentendu. C'est la fin de l'histoire ?
Non. Pas forcément, non. C'est clairement pas la fin de l'histoire. Surtout quand on connaît aujourd'hui les tensions qui existent autour du cas Mauricio Sarri. La presse anglaise, la presse sportive, en tout cas les titres sportifs, ne parlent que de ça. Hier, il y avait United-Liverpool. Là, on ne parlerait à la base que de United-Liverpool. On en parle un peu à travers les blessures, on l'évoquera dans un instant. Mais c'est vraiment la Coupe de la Ligue que tout le monde évoque. Et Sarri, vu la pression qui existe aujourd'hui autour de lui, il y a une chose qui se pose, c'est son autorité. Aujourd'hui, est-ce qu'elle existe ou pas ?
Alejandro, Hervé, Penaud, ne prenez pas mal, mais vous pouvez revendiquer une certaine expérience en termes de football. Surtout Alejandro, est-ce que vous avez déjà vu un tel hiatus sur un terrain de football ?
Je rappelle un autre incident au même site, à Wembley, mais en 66, puisque un match à Angleterre-Argentine, l'arbitre décide d'expulser Ratine, et lui, Ratine, à l'époque, les cartons n'existaient pas, fait semblant de ne pas comprendre, et il veut pas quitter le terrain, et du coup, il comprend pas l'anglais, il s'assied, il traîne, etc., jusqu'à ce qu'il soit sorti un petit peu manu militari. C'est pas le même type de situation, mais là, ça pose aussi un problème de, comment dire,
d'autorité
et aussi des règlements. C'est-à-dire, si l'entraîneur décide un changement, il faut qu'il se fasse quand même. Enfin, quelque part, j'ai du mal à comprendre.
Si on en croit les règlements, le jeu se poursuit si le joueur refuse de sortir. Et Karine Galli.
Alors moi, après, quand j'ai revu cette scène, je me suis dit évidemment que c'était un affront pour Sarri. Mais après, j'ai pas compris non plus la réaction de ses coéquipiers, parce qu'il y a un moment aussi, tous les coéquipiers ont vu que Sarri demandait le changement. Tout le monde sait évidemment que Caballero, il est bon dans cet exercice, que potentiellement il va se retrouver face à ses anciens partenaires, donc il connaît leurs habitudes, etc. Pourquoi Azpilicueta, qui est capitaine, qui est espagnol comme lui, n'est pas allé le voir, ou des joueurs comme David Luiz? Parce que il y a évidemment Sarri qui se retrouve seul au monde, mais il y a aussi des coéquipiers qui n'aident pas leur entraîneur, parce que logiquement t'as une décision et tu dois la faire respecter, et puis surtout c'est dans l'intérêt de l'équipe, parce que clairement on sait pas si avec Caballero ça aurait changé quelque chose, mais en tout cas on sait qu'il avait ça dans sa manche et qu'il est réputé pour réaliser des bonnes séances de tir au but. Donc voilà, c'est que les coéquipiers ne sont pas allés dans le sens de Sarri, en tout cas n'ont pas agi. Ils sont pas allés contre Sarri, mais ils ont pas agi non plus.
Ça en dit long peut-être sur l'ambiance qui règne au sein du vestiaire de Chelsea.
Mais dans le match, on voit pas une équipe qui abandonne son entraîneur.
C'est non, ça. Parce que Chelsea a plutôt fait un bon match malgré la défaite. L'arrivée Hervé, faut-il sanctionner Kepa? Alors, je suis pas sûr qu'on vous écoute du côté du bord de Chelsea, mais
ah, là, vous
êtes libre de donner votre avis.
D'ailleurs, je vais faire une réponse en anglais pour qu'on m'écoute là-bas. Ça me paraît compliqué de pas le sanctionner quand même, parce que là ça va être une telle marée qu'ils vont prendre du côté de Chelsea autour de leur gardien de but. Sarri, il est dans une situation instable. Alors on sent effectivement que les joueurs l'ont pas lâché ou lâché, mais ça j'en sais rien, c'est difficile à dire, parce que quand vous êtes dans une finale, que ce soit Sarri, Tartampion, un entraîneur que vous aimez ou vous aimez pas, vous voulez gagner. Ce sont d'abord des joueurs, des gagneurs. Quand Eden Hazard, on sait pas, en amour absolu avec son entraîneur, va frapper son tir au but, il se pose pas la question. Bah, si je le rate, peinard, comme ça, avec un coup de chance, Sarri sera viré.
Alors que Jorginho, qui adore Sarri, lui, il l'a très mal tiré.
Il l'a très mal tiré.
Donc ça. Après, il le tire toujours comme ça, hein.
Oui, mais voilà. Ça, ce sont des explications, des analyses après coup, à mon avis, qui ont très peu de sens. Mais il n'empêche qu'un fait précis, c'est que Sarri est en grosse difficulté à Chelsea. Ça, c'est sûr. On sait qu'avec des joueurs, ça se passe mal. Alors, l'idée que ce soit les joueurs qui aillent demander à leurs potes, parce que ça se trouve, ils sont très potes, de Kepa, c'est compliqué aussi, parce que c'est une prise de responsabilité devant le monde entier, parce qu'il y a ça aussi. Si vous le faites dans un vestiaire, alors là c'est tout à fait normal que les joueurs viennent le voir, l'entraînement est haut, mais t'es malade et tu te barres tout de suite, sinon tu vas te prendre une tarte, et puis après on réglera ça. Là c'est complètement différent, c'est que devant tout le monde entier vous savez pas comment Kepa va réagir.
Mais tu lui parles, il va dire... au moins. Je te demandais pas à Azpilicueta de le tirer par les cheveux jusque.
S'il le connaît, parce que moi je connais pas Kepa, peut-être qu'il sait que c'est un tempérament volcanique, il va dire si je vais le voir il va m'envoyer chier, ça va donner une image quand même absolument incroyable du club, parce que la logique quand même première, c'est que l'entraîneur demande le changement, il y a changement. D'ailleurs, j'étais surpris de ça, parce que d'une certaine manière, si vous demandez un changement, il est demandé sur le bord de touche. En quoi le gardien peut décider de pas sortir? S'il y a changement, le règlement, c'est qu'il soit changé, terminé. Alors, il peut ne pas être content, pleurer, faire tout ce qu'il veut, mais si on lui dit, et même l'arbitre va le voir, dit le changement est entériné, terminé.
Bon, Mauricio Sarri désobéi et fragilisé à Chelsea. Ça va beaucoup mieux du côté de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. C'est Sky Blues. On remportait un premier titre cette saison, je mets de côté le Community Shield, il en reste 3 à glaner, en tout cas à potentiellement glaner. Manchester City est-il en route vers le quadruplé, Mon cher Salim.
Déjà, parlons de doublé, peut-être, pour commencer, hein. Parce que, c'est
vrai qu'il va loin, lui, hein, qui a quadruplé.
C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en Cup, déjà, ils sont plutôt bien placés, puisque, donc, ils sont toujours qualifiés. Il y a très peu de gros, désormais, qui restent, hein, puisqu'il y a Manchester United et cette équipe de City, au final. Avec, Palace également qui reste. Donc, au final, très peu d'équipes, réputées, j'ai envie de dire. City qui a en plus tiré Swansea, donc, qui va, a priori, passer le tour suivant également. Donc, il y a des possibilités, effectivement, de voir City assez loin en Cup. En revanche, pour la Ligue des Champions, on va se calmer, même si, évidemment, il y a eu un très bon résultat sur la pelouse de Schalke, avec a priori une qualification bien possible pour les quarts. Après, en championnat, il y a quand même City qui reste deuxième, même si, évidemment, la période est positive pour City, négative pour Liverpool.
Mais est-ce que ça peut avoir un effet psychologique à Alejandro Valente de remporter un titre si tôt dans la saison, parce qu'elle arrive très tôt, cette finale de Coupe de la Ligue? Est-ce que dans le cadre du sprint final, ça peut faire beaucoup de bien?
C'est toujours déjà quelque chose d'acquis. Ce qui n'est pas le cas des autres. On peut penser que Liverpool va quand même sentir le vent de la menace sur son dos, parce que City approche semaine après semaine et que Liverpool pour l'instant n'a rien gagné. Il est plutôt en posture davantage compliquée, en tout cas en Ligue des Champions. Donc alors qu'on lui avait tout promis, il peut tout perdre. Ce ne sera pas le cas des City.
Oui, il y avait 7 points d'avance il n'y a pas si longtemps pour Liverpool sur City. Désormais, un seul point. Forcément, dans la tête, ça peut potentiellement jouer.
Puisque Liverpool est redevenu leader de la Première Ligue ce week-end, c'était juste avant justement la finale de la Coupe de la Ligue, donc ce dimanche. Match nul sur la pelouse du voisin, rival, Manchester United, 0-0, 27e journée de Première Ligue, une montagne qui accouche
même pas d'une
souris, un sacré pétard mouillé. La faute a également pas de chance, hein, d'un côté et surtout de l'autre, du côté de Manchester United. 4 blessés,
ça fait 2-0 rien qu'en première période. C'est quand même dur.
Oui, c'est une mauvaise pub pour le football anglais.
C'est rarissime.
Je reviens sur United Liverpool. 4 blessés dès la première période, dont 3 du côté de Manchester United. Et Rashford, il était également blessé. Il a même été obligé de terminer le match parce qu'il n'y avait plus de changement possible. Donc Liverpool repasse en tête. Match nul 0-0. Bonne ou mauvaise opération, Karine Galli, puisque il n'y a qu'un point d'avance.
Ouais, beaucoup disent que c'est une mauvaise opération. Moi, je pars du principe que déjà le fait qu'il n'ait pas perdu et qu'il reste devant, quoi qu'on en dise, c'est plutôt une bonne opération, parce que c'est Manchester qui aurait pu être l'arbitre finalement, et il y a un match nul. Après, dans le contenu du match, je trouve que Manchester United n'a pas été payé parce qu'ils ont plein de blessés, comme ils ont eu notamment face au PSG, même si le PSG méritait cette victoire. Mais Liverpool est toujours en tête. Ils ont leur destin entre les mains. Moi, je pense que c'est toujours un avantage. Alors, on parle de cette malédiction qu'ils ont rien gagné depuis 90, etc. Liverpool est en tête. C'est City qui va les chercher. Donc, pour moi, c'est toujours Liverpool qui a la main sur cette première ligue.
Et les blessés, simplement, parce que pour préciser, les blessés côté United, Mata, Herrera, Lingard, et c'est Firmino. C'est ça qui sort.
Liverpool sorti en béquille.
Très rapidement du côté de Liverpool. Hervé Penaud.
Non, et puis il faut arrêter de penser qu'une équipe doit gagner tous ses matchs. Là, vous êtes quand même à United, qui est quand même un grand club anglais, qui revient bien. N'oublions pas toute la série qu'ils sont en train de faire en Angleterre, parce qu'évidemment, on a l'image du Paris Saint-Germain. Enfin, en Angleterre, ils sont sur une super série. Vous faites un match nul à l'extérieur, c'est un point sur un calendrier. Quand vous cochez en début de saison, là où vous comptez gagner à l'extérieur, Manchester United, il n'y a pas de certitude. Donc prendre un point là, d'ici la fin de saison, c'est peut-être un point qui comptera en fin de saison.
Après, lorsque l'on observe malgré tout cette rencontre, alors au-delà des blessés, des remplaçants qui sont entrés en jeu, c'est une équipe de Liverpool depuis plusieurs semaines qui a un tout petit peu plus de mal, qui est moins bonne. On l'avait déjà eu face au Bayern dans la Ligue des Champions, 0-0 avec au final quasiment pas d'opportunité dans la partie. Et hier, David De Gea, on l'a pas vu en fait du match. Hein. Alisson, on l'a vu une ou deux fois, il a fait ce qu'il fallait, mais De Gea, on l'a pas vu parce que Mané, Salah et Firmino, on les attend à chaque fois de manière importante évidemment.
On a vu
les
trois.
Voilà, oui, c'est un autre match, mais c'est vrai que ces trois-là, on les a pas vus. Au final, on l'a vu personne à Liverpool. Défensivement, pas de souci, mais offensivement, c'est là où ça, entre guillemets, ça pêche un petit peu plus ces dernières semaines.
Du côté de Manchester United, on ne perd toujours pas sur le plan domestique Alejandro Valente. La seule équipe qui a battu le Manchester United de Solskjaer, qui lui est en place depuis le mois de septembre, c'est le PSG en Ligue des Champions, mais aucune défaite sur le plan domestique. Est-ce que ça, c'est à prendre en compte? Parce que l'avenir de Solskjaer, il va commencer à se poser et l'intérêt pourrait se prolonger.
Ça va peser, même si paradoxalement, ce match nul permet à Arsenal de passer devant Manchester United au classement et donc d'occuper cette quatrième place si importante pour les clubs anglais. Donc, quelque part, il marque quand même un petit peu le pas à Manchester United.
Mais c'était un test parce qu'on attendait de voir ce qu'il allait faire contre les grosses équipes sous le Cher, hormis le PSG finalement. Le bilan il est plutôt positif.
Oui, aussi. Parce qu'il y a eu victoire contre Tottenham à Tottenham, il y a eu victoire à Arsenal en Cup, il y a donc ce match nul face à Liverpool. Il y a un nouveau test, ce sera le 9 mars face à Arsenal, justement Arsenal United, cette fameuse ce fameux duel potentiel pour la quatrième place, en rappelant que Chelsea est, n'est pas largué du tout, Chelsea bah qui oui. a un match en moins en plus. Hein.
Potentiellement ouais. ils sont quatrième avec leur victoire. Ils n'ont pas gagné, mais
exactement. Donc ça va être très serré en fait entre ces trois équipes. Et puis United aussi sera quand même l'arbitre de ce duel final parce que le 24 avril, un match reporté qui a été décalé à cette date-là, le City United qui sera là aussi capital pour le titre.
Alors je suis pas dans le secret des dieux et du vestiaire mancunien, mais
voici. Alors de poser la question,
décidément, mais vous êtes omniscient.
Il est partout aujourd'hui. Ah,
et le fait qu'il y ait beaucoup de blessés, parce que contre Paris aussi, il y avait eu un peu une hécatombe en première période. Est-ce que ça c'est à mettre, ça va peser dans le bilan de Solskjaer ou bien non, il n'a rien à voir avec, avec tout ça?
Ah bah non, là c'est compliqué de lui mettre le sur le dos les blessés. Enfin moi je connais pas le staff médical de Manchester United, là je l'avoue, mais le fait d'enchaîner les matchs comme ça, de toute façon au bout d'un moment c'est inévitable d'avoir des blessures. On le voit dans tous les grands clubs. Donc à un moment il y a une forme de logique, c'est pour ça d'ailleurs ils ont des effectifs
et,
à rallonge.
Et il faut rappeler, alors malgré tout, même si United a effectivement un très gros effectif, au final Solskjaer ne fait pas tant tourner que ça. Il garde on va dire un 15. Hein, 11 plus 4 et c'est tout. Donc au final à un moment donné lorsque vous mettez les mêmes joueurs
lui c'est un entraîneur à la Ferguson, j'allais dire, mais il y a quelques entraîneurs, Sarri par exemple est pareil, lui c'est quelqu'un qui change pas. Parfois les entraîneurs un peu plus anciens, j'allais dire, ont tendance à jouer comme ça, comme Fabre par exemple à Dortmund, lui qui change carrément à 88e ses joueurs.
Karine, vous votez Solskjaer pour la saison prochaine, pour l'avenir à Manchester United?
Non, surtout pas.
Honnêtement, j'ai du mal à imaginer que s'il y a des grands noms disponibles, Manchester ne frappe pas à nouveau un grand coup. Après, ça dépendra beaucoup du marché. Mais c'est sûr que si Manchester a l'opportunité de retrouver une pointure et que cette pointure soit plus en adéquation aussi avec l'idée de jeu que les supporters des Reds ont envie, malheureusement, je suis pas sûr que ça continue avec Solskjaer. Ça aurait été déjà un très bel intérim, mais... ça serait dans la logique des choses d'essayer d'avoir un top entraîneur dans un top club.
Hervé Penaud.
Je pense que ce serait une erreur, moi, de le conserver. C'est triste, c'était dur ce que je dis. Ah mais ouais. Parce que on s'est rendu compte d'une chose importante contre le Paris Saint-Germain. Je voulais savoir un peu quelle était sa capacité dans des gros matchs comme ça, des matchs en face, il y avait une vraie adversité à la fois technique et puis tactique sur le banc. Et on s'est rendu compte qu'il avait assez peu de solutions. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'enthousiasme, la volonté, l'amour qu'il pouvait donner à des joueurs qui en avaient tellement marre, qui étaient rincés par Mourinho. Ça a super bien fonctionné parce que l'effectif est bon, attention. Donc ça fait quand il joue Bournemouth, West Ham, etc., etc., ils font des différences. Là, quand il a fallu trouver des solutions tactiques, il les a pas trouvées. Quand vous allez recommencer une saison, c'est un peu comme dit, je pensais à un entraîneur italien de Chelsea à l'époque qui a gagné Di Matteo. C'est comme Di Matteo, si vous voulez, il a gagné la Ligue des Champions, c'est pas pour ça qu'il fallait le garder.
Oui. Hello Goodbye, chanté les Beatles en ouverture de cette émission. Goodbye l'Angleterre, hello la France.
Alors c'est joué à deux entre Lopez et Tova. Tova qui dépose ce ballon sur la tête de Valère Germain. L'égalisation, ça fait un partout.
On va rester là, un partout. L'OM arrache un point à Rennes et occupe la cinquième place.
Attention, il y a Dubois qui est contré. Ballon récupéré par l'excellent Ronny Lopez. Qui va aller au bout de son affaire. Ronny Lopez. Quel but de Ronny Lopez qui résiste d'abord. Allez, au Dubois.
Pénalty Memphis Depay face à Daniel Subasic. Parfaite anticipation du gardien croate. 2-0, victoire logique de l'ASM.
Je travaille tous les jours pour essayer d'aider mon équipe au maximum. Voilà, de me faire plaisir aussi, parce que le foot ça reste du plaisir. Et de marquer des buts, battre les records, c'est ce qui m'anime, donc je suis très content.
3 contre 1, balle de 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé face à Bernard Denis. Le doublé pour Kylian Mbappé.
Je pars toujours du principe que... un jour, il y a quelqu'un qui viendra et qui fera encore mieux. Donc, il faut toujours essayer d'aller le plus haut possible parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va te dépasser.
Et oui, Radio Foot, c'est une affaire de virtuose. Kylian Mbappé, Laurent Salerno, notre réalisateur, Django à la guitare, sur un air de jazz. Jason sur les réjouissances de notre Ligue 1. L'harmonie retrouvée sur le rocher monégasque. Le récital de Kylian Mbappé donc. La voix de tête de Valère Germain, mais aussi les fausses notes lyonnaises. Premier thème, Monaco. Maintenant, on le sait, le soleil brille de nouveau en principauté. Troisième succès en 5 matchs depuis le retour de Leonardo Jardim, l'entraîneur portugais. Succès face à Lyon, le score 2-0, et ce sont deux autres Portugais qui ont fait la différence en première période, Gelson Martins, Rony Lopes. L'ASM est 16e, l'ASM est-elle sortie d'affaire, Karen Gueli?
Ah oui, oui, mais j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'ils arriveraient à se sauver, parce que de toute façon, il y a des équipes qui sont tellement faibles que c'était une évidence, et puis en plus, ils ont évidemment fait un mercato, et un mercato de qualité. J'ai même envie de vous dire, c'est dommage que le mercato hivernal soit arrivé à cette période, bon, c'est toujours la même, parce que je pense qu'ils auraient pu être européens, vous voyez, je pense que la remontée va être évidente parce qu'ils ont un effectif vraiment de qualité. Vendredi, nous étions en plateau avec mon cher Hervé et on disait que ça allait être très compliqué pour les Lyonnais et on l'a vu hier et la victoire est logique. Même si les deux mi-temps sont pas du même niveau, les Monégasques ont un 11 de départ qui est très fort et jusqu'à la fin de la saison, ils vont embêter pas mal d'équipes et ça m'étonne pas que les Lyonnais, surtout vu leur première mi-temps, ils soient tombés face à cette équipe-là.
Lyon, troisième de Ligue 1, on le rappelle, hein, c'est dire la performance monégasque. Petite parenthèse justement sur le mercato hivernal, ça fausse un petit peu le jeu, non Hervé Penaud, quand une équipe peut être autant transfigurée, ouais, mais le parce qu'elle a les moyens de le faire.
Bah évidemment, c'est dans les règles. Mais le problème, c'est qu'il y a un règlement. Donc voilà, on applique le règlement, soit on est contre le règlement, mais vous savez, les clubs, ils sont pas contre ce règlement-là, parce que les gros clubs, ils ont beau dire, oui, c'est pas terrible, mais enfin, ils se disent, on sait jamais, si ça nous tombe dessus, on fait un super mauvais début de saison, ce sera pas mal de pouvoir tout switcher. Mais de switcher dans ces proportions-là, quand même, c'est rarissime. C'est moi, j'ai pas de souvenir.
Enfin, l'an dernier, Saint-Etienne avait quand même beaucoup switché aussi, hein.
Ouais, non, mais là, c'est un niveau.
Et à ce niveau-là, en plus.
Oui, mais enfin, voilà. Saint-Etienne, l'an dernier, il y avait 5 joueurs qui étaient devenus titulaires lors du mercato hivernal pour la deuxième partie. 5 sur 11, c'est quand même colossal.
Mais là, il y en a combien? Ils ont acheté au moins 5-6 joueurs encore.
Oui, mais là, il y a des joueurs évidemment qui sont nouveaux, mais t'as des joueurs, t'as l'impression que c'est des recrues parce que Subasic et Lopes, bon, ben, en première partie de saison, ils étaient soit complètement à côté de leur pompe, soit Rony Lopes.
Et quand on rajoute Golovin, un Martins, un Fabregas, un Balotouré, enfin, oui, quasiment toute l'équipe, en fait, Glick qui était totalement acheté.
Sans oublier la valse des entraîneurs qui s'est ajouté.
Et qui a coûté très cher aussi. C'est pas tous les clubs qui pourraient se permettre.
Mais alors là, c'est énorme quand même. Dit bravo Jardim, Leonardo, tu étais parfait. 8 millions d'euros in the pocket, je pars de moi, je reviens, je signe un an de plus, sur les mêmes salaires qu'avant.
Un peu plus.
Voilà, salaire. Je crois que c'est à peu près pareil. Enfin bon. Et plus, il doit avoir pris quelques primes, non décentes, etc. Et ça, parfait. 8 bon. Millions d'euros en plus, pas mal pour les vacances.
En attendant, il fait l'affaire depuis son retour Jardim. C'est quoi maintenant l'horizon pour l'ASM, retrouver la première partie de tableau? Ou alors non, sécuriser le maintien?
Non, mais le maintien, il est acté.
Objectivement, sécuriser, oui, faut le sécuriser. Mmh. Évident, ça reste le premier objectif. C'est pour ça que ces joueurs ont été ainsi recrutés. Après, on va être honnête, quand on voit les adversaires, justement, pour ce maintien, a priori, ça va être le cas. Après, c'est remonter effectivement en première partie tableau. Ouais. C'est permettre à Monaco de finir à une honorable place. Pourquoi pas 7-8e. Voilà, dire que Monaco finit en première partie saison, c'est ça. Là.
Ils sont loin.
Ouais, ils sont loin.
Ils sont loin. Déjà, s'ils font les 10.
Lyon. On peut parler de Lyon, équipe désespérante à souhait, en tout cas désespérante pour ses supporters, irrégulière en tout cas. Match nul contre le Barça en Ligue des Champions et derrière patatras en championnat.
Hier, il y avait des joueurs qui réagissaient en zone mixte et notamment Lucas Touzard disait ce qui est évident, c'est qu'on ne progresse pas au niveau de notre problème d'irrégularité. Et ça, c'est une évidence parce que dans leur match, en fait, tu as exactement les mêmes analyses et tu as exactement le même contenu très souvent. C'est-à-dire que tu as une mi-temps où ils sont à l'envers et tu as une deuxième mi-temps où ils réagissent, ou inversement, ils sont incapables de faire un match pendant 90 minutes. Et hier, en plus, ils font des erreurs grossières. Parce que les deux buts, c'est quand même des énormes cadeaux. Tu as Mendy qui était dans un grand soir, tu as Léo Dubois qui a été également fautif, et tu as Marcelo qui a été cata. Le problème de Lyon, c'est que c'est trop récurrent. Et ça me montre à quel point quand même le championnat est faible. Le troisième de Ligue 1, on est à 26 journées, a déjà 6 défaites. C'est énorme. Et je pense pourtant que Lyon finira sur le podium. Cette équipe, elle est trop irrégulière. Elle est toujours en réaction et rarement dans l'action en championnat.
Alors, c'est vrai, parce que c'est une des rares équipes qui est invaincue en Coupe d'Europe, par exemple. C'est étonnant. Hein, ils sont trois, je crois. Il y a trois équipes invaincues depuis le début de la Ligue des Champions. C'est une équipe... moi, je crois que c'est lié aux joueurs qu'elle a. C'est lié en fait, ce sont des jeunes joueurs qu'on voit beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont. Ça a toujours été mon point de vue, parce que j'ai l'impression qu'on s'enflamme sur des joueurs, mais je sais même pas pourquoi.
Vous pensez à un certain néerlandais qui revendique parfois du temps de jeu et de jouer dans un très grand club européen.
C'est pas lui, parce que lui, on sait à peu près quelles sont ses qualités, ses défauts. Non, moi, à l'arrière, c'est pas lui qui m'inspire ça, c'est plutôt les jeunes. Mendy. Alors, vous savez pas ce que vous allez avoir, Mendy. Vous savez pas s'il va vous mettre en difficulté, être bon, être pas bon, aucune idée. Aouar. Très moyen depuis début janvier. Ndombele, qui fait exactement ce qu'il a envie de faire. Mais pourquoi? Parce que
c'est-à-dire pas grand-chose depuis quelques mois.
C'est-à-dire pas grand-chose. Après, vous avez des joueurs qui n'ont pas d'un très haut niveau. Dubois, bah, alors d'un seul coup, il a fait un match contre Barcelone. Il y en a qui l'ont annoncé déjà en équipe de France. Et je me suis dit, mais je pense qu'on parle pas du même joueur. Qu'il soit régulier, qu'il aligne les matchs. Vous savez qu'il est quand même pas titulaire à Lyon. Il est titulaire pourquoi? Parce que Raphaël est pas là. Sinon, c'est Raphaël le titulaire. Et donc Dubois, il fait une erreur de débutant parce que se faire prendre la balle comme ça face à un joueur comme Ronny Lopez qui va à 300 km/h, il le fait une deuxième fois dans la deuxième mi-temps en plus. C'est quand même phénoménal. Non, je pense simplement que cette équipe, elle est surcotée. Donc elle a des qualités parce que quand les joueurs sont tous à leur top, j'imagine le Lyon des années 2000 que j'ai suivi à l'époque où vous aviez Ben Arfa, Benzema. Quand Ben Arfa, Benzema et tous les jeunes étaient top, plus les stars, les Sien, les Diarra, les Juninho, les Chris, etc. Là, ça faisait c'était des bombes atomiques. En revanche, là, vous demandez à des jeunes joueurs comme ça, à milieu de terrain, vous avez Touzard, 21 ans, Dombélé, 21 ans ou 20 ans, et Aouar, 20 ans. Et vous dites, ah, mais non, elle est leader, hein, faut y aller.
Mais alors, il faut les encadrer. C'est peut-être la faute du coach, alors, ce moment-là, Bruno Genesio.
Non, c'est un problème de, là, à mon avis, moi, mais, alors après, le coach, on peut dire qu'il a ses responsabilités.
Bien sûr.
Par contre, vous êtes entraîneur, vous devez gérer tout ça. Mais le problème, c'est que quand vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas de joueurs clés dans un, il n'y a aucun club de haut niveau qui a des joueurs aussi jeunes.
Le problème, le leader, entre guillemets, de Lyon, c'est Anthony Lopez, je dirais presque. Ouais. Alors, mais bon, même
et
si
lui, c'est le meilleur joueur de la saison de Lyon.
Totalement, largement. Mais, et j'ai presque envie de dire, c'est agaçant. C'est un gardien, ça reste un gardien. Vous avez besoin d'un leader de champ, d'un joueur de champ, un milieu de terrain, un milieu def, un milieu offensif, d'un attaquant si vous voulez, mais pas d'un gardien leader.
Mais,
ça change.
Mais parce que tout le monde a mordu à l'hameçon lancé par Jean-Michel Aulas, qui n'arrête pas de dire
le président
de Lyon, qui n'arrête pas de dire on est une équipe incroyable, quasiment l'équipe qu'on avait dans le début des années, on n'a jamais eu une telle attaque, etc., etc. Il faut qu'à un moment les analystes regardent avec un peu plus d'assiduité et de finesse pour se rendre compte que tout ça c'est du vent, c'est vendre un club et c'est tant mieux pour lui. Le fait très bien, mais c'est un effectif qui a beaucoup de lacunes, Et bien, ils sont à peu près à leur niveau, parce que Lille, s'ils avaient la Coupe d'Europe, ils ne seraient pas deuxième, Lille. Là, ils sont là parce qu'ils ont que ça, et ils n'ont pas de coupe, etc. On jugera la saison de Lyon, je dirais, dans la globalité, à mon avis, sur la fin de saison, on verra s'ils sont en Ligue des Champions ou pas, ou ils sont allés en Coupe de France, bon, pour la Ligue des Champions.
Mais est-ce que toute cette corde-là n'est pas destinée à fragiliser, ou en tout cas, à activer le fusible Genesio?
Non, au contraire. Alors là, il n'y a aucun. Alors là, il n'y a pas du tout ce rapport parce que Aulas, s'il veut virer Genesio, demain matin, il va dans le bureau de Bruno Genesio, il dit, ça y est, tu n'es plus entraîneur. Et c'est terminé, ça ne posera aucun problème. C'est pas un bras de fer à la Manchester ou des choses comme ça. Là, rien du tout. Il n'y a pas de combat, de toute façon.
Après, il y a deux choses. Moi, je trouve que c'est déjà, il y a un problème. Les joueurs ne prennent pas leurs responsabilités. Hormis Anthony Lopez, quasiment. C'est des joueurs et c'est des trucs tout bêtes, mais qui sont quand même significatifs. Quand ils gagnent, ils font tous les barbeaux. Et, notamment en zone mixte, quand ils perdent, il n'y en a pas un qui est responsable. Et Anthony Lopez, lui, ne se dégonfle jamais. Et tu le vois aussi sur le terrain hier, il était excédé parce qu'effectivement, il se retrouvait quand même avec des vagues et avec des erreurs énormes de la part de ses joueurs qui ne se rendent pas compte. Je veux dire, Ndombele, il a combien de saisons de Ligue 1 dans les jambes? Il a même pas deux saisons de Ligue 1 dans les jambes. On nous explique qu'il va être vendu à la fin de la saison 80 millions d'euros. Je veux dire, on marche sur la tête. Et juste après, pour finir sur Genesio hier a dit qu'a priori, il s'était peut-être trompé dans la compo d'équipe.
Ça, c'est pour piquer aussi ses joueurs. Et puis, vous êtes entraîneur, vous avez des responsabilités, hein. Heureusement.
Allez, on laisse les Lyonnais de côté. On va leur demander simplement de répondre plus souvent aux questions de Karine Galli.
Mais c'est pas mes questions, parce que les gens, ils pensent que c'est l'équipe et tout. Mais
non, du tout.
Mais c'est
non,
des réactions.
Bien.
Voilà. Et Anthony
Assumer
Lopez,
devant les médias
à chaque fois qui perdent, il est là, il dit bah oui c'est mon job. Et en plus il fait pas de la langue de bois.
Et Touzard aussi,
mais Touzard c'est vrai qu'il joue moins. Touzard et voilà. Et Anthony Lopez c'est bon, il a un côté, c'est l'exemple de ce qu'est l'Olympique Lyonnais quand même aujourd'hui. C'est un joueur formé au club qui prend ses responsabilités, etc.
Marseille, à présent un autre convalescent de la Côte d'Azur. Ne faites pas cette tête-là, Salimon Galli. Match nul un partout à Rennes ce dimanche. C'est Germain de la tête qui a répondu à Benjamin André, qui a donné de sa personne, hein, Valère Germain, parce qu'il a été bien sonné. Ouais. Il a pris la tête aussi d'un défenseur rennais sur le coup. C'est son premier but depuis le mois de septembre, hein, le jeune natif de Marseille. L'OM rétrograde au cinquième rang au classement, mais Marseille continue à ne pas perdre. Alors faut-il voir le verre à moitié plein, moitié vide? Salimon Galli, je crois deviner votre réponse.
Oui, pardon, je vais prendre le verre à moitié vide, et bien vide d'ailleurs, parce que, alors on peut parler de la qualif de Rennes, qui peut-être leur a permis justement de poursuivre justement sur ce rythme-là,
Rennes
sur
qualifié
cette folie.
Pour les huitièmes de la Ligue Europa.
Totalement. Et donc cette folie de la qualification leur a permis peut-être de réaliser une très bonne première période, c'est bien. Mais d'autre côté, alors il y a une bonne première période de Rennes, et il y a une première période cataclysmique de l'OM. Vraiment, tout a été raté dans l'OM. La moindre passe loupée. Balotelli, on en attend toujours beaucoup. Évidemment, à juste titre. C'est pour ça qu'il est là. Balotelli, on a l'impression que quand il est pas dans un match, il est vraiment pas dans un match. Et là, sur la première période, il a pas été comme la seconde d'ailleurs. Enfin, autant il y a eu une petite réaction en seconde, heureusement, mais la première période de l'OM, ça c'est j'ai envie de dire, c'est une première période honteuse de la part des joueurs de l'OM. Vraiment.
Bon, on rappelle quand même que l'OM a traversé une sacrée crise cet hiver.
Oui,
donc, est-ce qu'il faut pas quand même garder le positif du fait de ramener un nul à Rennes?
Non. Mais non, mais parce que, comme le dit Salim, ils sont pas sortis de la crise. C'est-à-dire que Rudy Garcia a commencé à ressortir son beau discours après trois victoires. Vous avez vu les victoires? Ouais. Bordeaux, Amiens et Dijon. Ouais,
c'est ça. Non, victoires qu'ils avaient eues lors des matchs allés. Hein. Voilà. Je l'oublie pas.
Amiens et Dijon qui sont au fond du trou et Bordeaux qui est un fantôme. Donc, il y a un moment, surtout quand t'es entraîneur de l'Olympique de Marseille, et que tu vois bien que ton équipe a énormément de mal à produire du jeu, que c'est la guerre avec les supporters et que tu ressors comme un coq après trois victoires face à des adversaires qui sont d'une faiblesse hallucinante, c'est quand même dingue. Et hier, effectivement, dans le contenu du match, c'est catastrophique. Et on l'a vu également face aux Rémois quand ils avaient perdu à Delon, c'était catastrophique. Donc, pour moi, l'OM n'est pas sorti d'affaire. Le problème, c'est toujours pareil. Vu que la Ligue 1 est tellement...
Faible,
qu'ils sont cinquième en faisant, un match sur deux potable et un match sur deux effrayant.
Donc, ne mâche pas ces mots, Karine Galli.
Non, c'est vrai,
aujourd'hui. Allez, rendre
au fait. Non, la seule chose que je peux dire pour défendre Marseille, c'est que, au vu de ce match, quand même, ce match nul est un très bon résultat pour l'OM, parce qu'ils auraient pu en prendre pas mal, surtout en première mi-temps. Et je me dis que c'est peut-être la chance qui aujourd'hui s'accroche un petit peu à cette équipe de l'OM. Mais les semaines qui viennent sont quand même assez compliquées, parce qu'il y a des matchs très très difficiles, dont les classiques contre le PSG, qui vont mettre cette équipe à rude épreuve.
Quelqu'un pour abonder dans le sens d'aller rendre
Moi je vais être un peu moins dur quand même. Je trouve, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est même pas les trois victoires, parce que ça m'a bien fait rire, vu que par exemple l'enchaînement Amiens-Dijon, il l'avait fait au match aller. Bon, donc faut pas, certainement pas l'oublier. Enfin, moi je trouve que dans ces matchs-là, c'est une équipe qui s'accroche quand même, qui lâche jamais complètement. À Rennes, ils auraient pu couler, et ils l'ont pas fait, et c'est plutôt à leur crédit. Alors maintenant, il va falloir remettre tous les paillettes, et Luis Gustavo, etc. Il va falloir rechanger, parce que d'une certaine manière, si vous voulez, ils ont pas trouvé, parce qu'on m'expliquait, ils ont leur système. Non, il y a pas de système. D'ici la fin de saison, je sais pas s'ils le trouveront complètement. Ils vont tenter de mettre les joueurs en forme, et puis essayer d'aller vaille que vaille jusqu'au bout, quoi.
Voilà, des cadres qui avaient été mis un peu de côté, hein, ces derniers temps, du côté de Marseille. Kylian Mbappé pour refermer cette page Ligue 1, doublé face à Nîmes ce week-end, avec bien sûr le Paris Saint-Germain, touchable leader de la Ligue 1, 51 buts pour le prodige français dans le championnat de France, à un peu plus de 20 ans et 2 mois. Il est le plus jeune joueur à franchir la barre des 50 réalisations en Ligue 1 ou en D1. Il dépasse la légende Rachid Mekloufi, la légende algérienne qui détenait ce record de précocité depuis 1957. Kylian Mbappé, on le sait, c'est un phénomène. C'est pas exactement ça le sujet du jour. On va pas revenir sur son parcours. On va plutôt se demander jusqu'où il peut aller, Kylian Mbappé, parce qu'on s'est aperçu face à Nîmes, et on s'aperçoit depuis le début de la saison, alors qu'il en est quand même déjà à 27 buts toutes compétitions confondues, que sa marge de progression elle est encore très forte. C'est peut-être ça qu'il faut retenir à l'heure où il dépasse cette marque symbolique des 50 buts en Ligue 1, Karine Galli.
Ah oui, il y a pas mal d'axes de progression, notamment là, parce que lui, il est dans cette course au but, et c'est normal, il est de la race des Messi, des Ronaldo, etc. Mais par exemple, dans les 1 contre 1, il y a quand même énormément de déchets. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, il a des statistiques qui sont incroyables, parce qu'il joue au PSG, et forcément, c'est une équipe qui se produit énormément d'occasions. Mais si vous regardez face au Nîmois, il met un doublé. On est un doublé, oui. Sauf que il aurait pu mettre un quadruplé.
Tout à fait. Voilà, il a deux buts refusés. Hein,
et dans
le jeu d'Alain Denis,
il rate des face à face. Et si on regarde bien dans tous ces matchs, c'est souvent le cas. C'est qu'effectivement, il arrive à être décisif à un moment, mais il y a quand même du déchet. Et ça, forcément, il va gagner en efficacité. Il va être beaucoup plus clinique avec les années.
Donc l'efficacité, c'est le principal axe de progression de Kylian Mappé. Quelqu'un veut enrichir
c'est déjà exceptionnel, mais
il va progresser en tout, progresser dans ses déplacements, progresser dans son sens du jeu, progresser dans son relationnel à ses partenaires, progresser dans, alors je dis pas dans son jeu de tête, parce que je sais pas s'il va faire beaucoup d'efforts là-dessus, ça je n'en sais rien, on n'aura pas de certitude, on verra au fil des années, parce qu'à un moment il peut marquer un but de la tête, il y va pas, il ose pas, il a un peu peur, donc il préfère mettre la main, mais Et puis il prend pas un carton, si, il prend un petit carton quand même pour cette mimine. Non, mais surtout, on sait pas quelles sont ses limites parce que on savait déjà pas quelles étaient les limites de Ronaldo et de Messi. Je me souviens très bien au début de leur association, je vais dire, je vais me parler de plus que de concurrence, association en Espagne où l'un marquait, donc l'autre répondait, l'un marquait. Vous disiez, mais ça va s'arrêter quand? Puis ça s'arrêtait jamais, en fait. C'était incroyable. Ben, j'aimerais savoir, ouais, Mbappé, il aura pas la même concurrence en France, sauf auprès de Neymar et de Cavani peut-être. Donc c'est autre chose. Mais ce qui est étonnant, c'est cette soif qu'il a de vouloir toujours gagner et de ramener des records. Mais c'est depuis qu'il est tout petit. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire de se dire à un moment, j'ai raté des buts contre Nîmes, mais il a fait des efforts à la 85e minute ou à la 80e, comme si c'était la première contre Manchester United. Pourquoi? Pas parce que c'était Nîmes en face. Bien sûr qu'on est un peu moins concentré quand c'est Nîmes, ça, c'est évident. Mais lui, c'est pas ça. Parce que son but, c'est pas Nîmes-Manchester, c'est je vais mettre 15 buts, je vais mettre 25 buts, je vais arriver à 50, 51, 52. Il a les records dans la tête. Et d'ailleurs, il avait fêté sur Twitter un moment, je sais plus quel. Les 100 buts.
Et à l'entraînement.
Voilà, l'entraînement. 100 buts à l'entraînement. C'est-à-dire que même à l'entraînement, il compte ses buts. Donc là, vous voulez, c'est un fou.
En plus, il parle tout le temps de plaisir quand il parle de foot.
On l'a encore entendu il y a quelques minutes.
Voilà, et c'est pas de la com. Lui, il prend vraiment du plaisir. Cela, il me rappelle un peu Messi, dont on sait l'envie qu'il a tout le temps de jouer et de faire des choses. Et d'ailleurs, ce sont les deux joueurs qui se disputent aujourd'hui les souliers d'or. Cristiano a été un petit peu décroché ce week-end, donc voilà, les limites sont là, c'est le top.
Rien à ajouter, au final, si ce n'est que Mbappé, peut-être qu'on l'attendra dans un exercice, alors il n'a jamais vraiment tenté, vous allez me dire si je me trompe, les coups francs, peut-être qu'on l'attend, pourquoi pas là, peut-être que ce genre de record va vouloir tenter de toucher à ça.
Il y a des chances, mais là il y a Pépère à côté.
Oui, il y a Pépère.
Né, mais surtout, je peux tirer, né,
mais,
s'il te plaît.
Mais surtout plus sérieusement, peut-être le voir un jour, alors là il a encore 20 ans, hein, mais pourquoi pas l'aventure à l'étranger, c'est là peut-être.
Oh, ça y est, il veut nous l'envoyer en Angleterre.
Qu'arrivera ou pas sa limite en Angleterre en première ligue, évidemment.
Vous voulez pas le garder encore un petit peu en.
Non,
on le garde en France encore.
Tu veux pas le voir en Espagne, toi, c'est
première ligue.
Mais où ça? Il y a un club?
Non, il n'y a pas de club aujourd'hui. Aujourd'hui, soyez honnête.
Non, mais toi, tu veux le voir où?
À West Ham.
Ah ouais. Alors là, a priori, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas.
Le club, ce sera le Real.
Oui, évidemment.
En ce qui nous concerne, nous, en tout cas, présentement, on va en Espagne.
Liga del mundo.
Leo Messi.
Acá se viene el centro, busca opciones, la pone Rakitic. Messi. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Golazo del Barça del 26! La enganchó con música Leo Messi.
Y le debe poner por delante en el marcador al Real Madrid. Ahí va Gareth Bale. Se frena en su carrera, golpea Bale. ¡Gol!
Que de génie dans cette émission. Et là encore, je fais allusion à Laurent Salerno, notre réalisateur.
Non, pour ça, je crois que c'était au chroniqueur.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, je vous ai regardé à ce moment-là, je dis c'est vrai. Bonne analyse de la situation.
Alors, quatre génies autour de moi. Je suis gâté. Des génies également dans ma bouche, sur ma feuille, dans mes mots, puisqu'on parlait de Messi, de Mbappé plutôt. Et là, on va parler de Messi. Vous faisiez la comparaison entre les deux, mon cher Alejandro Valente. Triplé pour la Pulga face à Séville à l'occasion de la 25e journée du championnat d'Espagne ce week-end, alors que le Barça était mené 2-1. Donc ce triplé, il a fait beaucoup de bien. 33 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues pour Messi cette saison. 18 passes décisives. Le Barça, bien sûr, est un solide leader de la Liga. Deux classicos se profilent. Pour l'instant, tout va bien pour le Barça donc et Messi. Et alors cette question pour vous, Alejandro Valente, vous qui connaissez très bien le sujet, la vedette argentine est-elle en train de vivre l'un des plus beaux moments de sa carrière? Ce qui en dirait long, vu que le niveau constant a toujours été assez élevé.
Bah, je pense que ces types de joueurs, c'est comme un rockstar. Hein, et c'est toujours le dernier disque qui aura sa préférence. Et pour lui aussi, c'est la dernière saison, c'est toujours la plus belle. Et on sent que Messi n'a pas les jambes qu'il avait avant. Contre Séville, si vous regardez le match, on le voit apparaître par fulgurance, là où on ne l'attend pas, mais il ne fait pas un match énorme. D'ailleurs, la première mi-temps de Barcelone n'était pas terrible. Mais pourtant, lui qui avait un petit peu essuyé les critiques avec les autres pour ne pas avoir réussi à marquer à Lyon, il marque trois buts très beaux, très différents les uns des autres.
Donc, et il donne une passe, reprise de volée extraordinaire.
Oui, et il donne une passe décisive à Luis Suarez qui avait besoin de marquer et qui du coup se relance juste avant les doubles classicaux face au Real Madrid, donc c'est parfait.
Mais là, ce qui est intéressant, et c'est un phénomène finalement peut-être assez récent pour Messi avec le Barça, c'est que avant il était entouré de très grands joueurs. Là, on le sent plus seul aux commandes et il prend parfaitement ses responsabilités. Hervé Penaud.
Moi, l'impression que ça me donne, c'est que jamais le Barça a été autant Messi dépendant. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il est pas meilleur que le Messi d'il y a 2-3 ans. Rappelez-vous, à un moment, il a eu une année, je sais plus combien de buts. On a l'impression qu'il volait.
Mais il était mieux entouré.
Il était mieux entouré. Il avait un impact énorme. Mais on a l'impression que là, pourtant, le Barça est quand même leader du championnat d'Espagne, mais ils s'en remettent beaucoup à Messi. C'est-à-dire que Messi est devenu vraiment le Messi de l'équipe, c'est le cas de le dire. Alors que Suarez a beaucoup de difficultés. Alors, il a son impact physique, sur les combats, ouvrant des brèches pour les autres, etc. Mais c'est plus le Suarez qu'on a connu d'un temps ancien. Dembélé, c'est encore jeune. Les milieux de terrain ont pas le poids des Xavi, Nesta d'un temps ancien. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on s'en remet à Messi. Et l'exemple type, c'est ce match-là, c'est vrai. C'est assez étonnant. Moi, j'ai regardé aussi, mais ils ont été d'une faiblesse en première mi-temps. Barcelone, c'était assez effrayant même pour une équipe comme Barcelone. Et puis d'un seul coup, il y a le génie il a fait peut-être 3 km dans tout le match, j'exagère, mais on doit pas être très loin. Et il s'est retrouvé toujours bien placé. Et puis il a ce côté, alors là, tu parlais des gens cliniques, pour le coup, mais c'est simple. C'est-à-dire que il est là comme il serait à 40 mètres de ses buts, à faire une passe à 3 mètres. Et ben là, il met ça dans les buts. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a une Messi dépendance énorme du Barça, qu'il a toujours un minimum eu. Mais avant, vous pouviez vous en remettre à Suarez au top, à Neymar, quand Neymar était là, etc., etc.
Mais c'est là où aussi on peut s'interroger sur leurs ambitions et notamment gagner la Ligue des Champions, parce que ça pose un vrai problème. On le voit bien, mais si en plus il redescend très bas pour prendre le ballon parce que les milieux de terrain ont du mal, il doit être aussi à la finition, il n'est pas épaulé. Et notamment lors du match contre Lyon, alors il a du déchet, alors que c'est Messi, mais il redescendait extrêmement bas pour récupérer les ballons, et il devait tout faire, il devait récupérer le ballon, et il devait à chaque fois faire la différence. Quand t'avais tes milieux de terrain qui n'étaient pas dans un grand soir, plus tes deux cocos, Dembélé, Suarez, et je sais plus qui est rentré en seconde période, qui n'était pas trop inspiré non plus. Plus d'ailleurs.
Il y a Alenia qui est un très fort, quand même, qui fait une frappe qui ouvre la voie au troisième but de Messi.
Non, là je parle face à Lyon, pardon.
Ah, face à Lyon.
Et c'est un problème par rapport à leurs ambitions en Ligue des Champions. Le niveau actuel, c'est-à-dire que.
C'est Coutinho qui était rentré à la place de
Messi. Ah oui, Coutinho qui était rentré. Tous ceux qui sont autour de Messi aujourd'hui sont pas du tout au top niveau. Pour la victoire finale en Ligue des Champions et par rapport à leur ambition et l'idée aussi de récupérer un nouveau ballon d'or, il va falloir que ses coéquipiers se réveillent.
Mais c'est vrai que ça va être une Ligue des Champions pour Barcelone, parce qu'ils sont quand même leaders du championnat d'Espagne, faut pas l'oublier. Mais on a l'impression qu'elle peut aller partout, cette Ligue des Champions. Celui qui est capable de dire aujourd'hui qui peut la remporter, le PSG peut tout à fait la remporter aussi, ça va être très sérieux.
Mais pour répondre à l'inquiétude d'Hervé, je pense que Barcelone s'appuie aujourd'hui sur une défense qui est quand même plus solide qu'avant.
C'est vrai.
Ça, c'est un avantage.
Et un gardien qui est peut-être encore plus fort.
Et puis, on espère que certains joueurs qui sont un petit peu poussifs vont remonter un petit peu en puissance à partir du mois de mars. Je pense à Dembélé.
À Coutinho.
Je pense à Rakitic et forcément à Coutinho, même si les gens y croient de moins en moins.
Le mois de mars, ce sera le mois de la manche retour du 8e de finale de Ligue des Champions face à Lyon, 0-0 à l'aller. On le rappelle, vu ce qu'ont montré les deux équipes ce week-end, ça sent mauvais pour l'OL, cher.
Oui, sur le papier, encore une fois, même au tirage, on disait ça, d'accord. Mais
si vous rendez compte que Coutinho, s'il n'est pas titulaire, mais Coutinho, il est titulaire tous les jours à Lyon.
Oui, bien sûr. On va être clair, évidemment, sur le papier, plus que jamais. Mais
même
Lyon,
sur le match aller, il n'y avait pas photo. Même si c'était pas du tout un grand match.
Le Barça a frappé 25 fois au total, même s'il n'y a que 5 frappes cadrées. Mais ce Lyon est tellement bizarre. Je dis bien bizarre, contre les gros, on l'a vu cette saison. Et même au match aller où il y a quand même une certaine résistance, je ne suis pas en train de dire que Lyon est au même niveau que Barcelone, évidemment pas, mais Lyon peut faire un petit truc.
Oui, sachant qu'ils n'ont pas été bons, Lyon, au match aller.
Les deux n'ont pas été bons.
On ne va pas refaire le débrief du match aller. On va regarder.
C'est un élément ajouté qui était très intéressant.
Oui, très intéressant. Décidément, mais que de génie pour débuter cette semaine. 4-2 donc, parce que je n'ai pas donné le score tout à l'heure. 4-2 pour le Barça face à Séville. Succès de l'Atlético de Madrid, deuxième devant Villarreal. 2-0 et succès du Real Madrid face à Levante 2-1 à l'extérieur. Benzema sur penalty, Bale sur penalty également. Voilà les buteurs. Le problème, c'est que le penalty de Gareth Bale à Leandro Valente, il a suscité pas mal de polémiques. La première, quant à sa validité, beaucoup disent qu'il n'y avait pas penalty, tout simplement.
Disons que la VAR qui a été appliquée montre qu'effectivement, il y a un joueur de Levante qui essaye de dégager un ballon qui frappe en l'air. Et il y a Casemiro qui se jette en se tenant la jambe. Alors on pense qu'il a tapé sa jambe. Bon, c'était la soirée des Oscars, donc il a choisi son
moment.
Pris
de l'interprétation.
Mais quand on revoit les images, on a l'impression qu'il n'y a aucun contact. Ou s'il est en contact, il est à peine effleuré la jambe. Donc on peut être étonné que ces pénalties aient été accordées. Mais bon, ça a été le cas. Mais la vraie polémique, c'est surtout
allez-y, racontez-nous.
Parce que Gareth Bale s'empare tout de suite du ballon, il ne le lâche pas, il a décidé de tirer ce penalty, il le tire, il le marque, et ensuite il y a Lucas Vázquez qui vient l'embrasser pour fêter le but, et il le dégage des bras sans ménagement, et il ne veut pas fêter son but, donc il fait la tête, et tout ça, ça a beaucoup choqué au Real Madrid, où beaucoup de gens pensent que c'est la goutte d'eau qui fait déborder leur patience par rapport à un joueur qu'ils n'aiment plus.
Parce qu'on a ouvert cette émission.
Et après, il a appelé, et après, parce que je sais un peu ce qui s'est passé dans le vestiaire, il a appelé Kepa. Il a appelé Kepa.
Ouais, parce que j'allais vous dire, on a ouvert cette émission sur un mouvement d'humeur surprenant, la referme sur un mouvement d'humeur
pas décisive.
Ça vous arrive de pas vous auto-complimenter
Mais aujourd'hui, c'est ça va être difficile quand même.
Vous vous impressionnez vous-même. Alors que vous êtes un peu bracassé, je dis ça pour nos auditeurs. Vous êtes un peu mal.
Ne te penche pas trop. Ça peut être.
C'est surprenant, non, Karine Galli, un tel geste d'humeur, alors qu'on a un coéquipier, alors que vous êtes en train de gagner un match.
Oui, mais sauf que moi, j'ai l'impression que le divorce Bale et L'Oréal, on en parle chaque année, en fait, il a jamais lieu parce qu'il y a Florentino Pérez. C'est-à-dire que, en réalité, Bale, depuis qu'il est arrivé en 2013 avec le meilleur joueur de première ligue, le transfert le plus cher de l'histoire, ça devait être le successeur de Cristiano Ronaldo, en tout cas une star absolue et un joueur indéboulonnable, ça ne l'a jamais été, et les problèmes, il y en a toujours eu chaque saison, donc j'ai l'impression que l'histoire ne s'arrêtera pas tant que Florentino Pérez n'arrivera pas à se décider qu'en fait il s'est planté. Enfin, ou en tout cas, c'est pas le joueur qu'il espérait.
Il s'est planté avec un joueur qui a été régulièrement décisif en Ligue des Champions.
Oui, mais sauf que, excusez-moi, sur le bilan Gareth Bale, pour moi, c'est pas une réussite au Real Madrid.
Quand on pense à Gareth Bale, on pense plus aux blessures qu'il a eues. Une trentaine de blessures au final depuis qu'il est au Real, c'est beaucoup trop. Au final, on pense davantage à ça qu'à ses matchs, effectivement, et à ses buts clés.
Mais là, il y a une évolution.
Non, mais d'accord, mais Hervé, Gareth Bale, il joue au Real Madrid. Donc tu attends autre chose.
Là, il y a une évolution parce que avant, même à l'époque des Zidane avait quand même la pression pour mettre Bale autant que possible. Là, aujourd'hui, c'est Vinicius les titulaires et Bale est son remplaçant et visiblement, ça ne pose pas de problème. Solari n'est pas contesté par Florentino pour avoir adopté cette attitude. Et c'est peut-être ça que Bale vit plus mal parce qu'aujourd'hui, les joueurs même se lâchent davantage puisqu'on a entendu beaucoup de joueurs s'en prendre à lui, lui reprocher de ne pas participer dans la vie du groupe, de ne pas parler espagnol, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, on a l'impression quand même que la fin de l'histoire.
Ça
fait 6 ans qu'il est.
Il ne parle pratiquement qu'avec un préparateur physique qui parle anglais. Et les joueurs disent qu'ils ne parlent jamais avec eux en espagnol.
Ça, c'est un beau sketch quand même. Le mec est arrivé en 2013.
Les Anglais ne sont pas réputés.
Je précise, c'est l'inverse. Il y a l'inverse aussi. Je prends un exemple. Sergio Aguero, lorsqu'il s'exprime par exemple après les matchs en Angleterre, il s'exprime toujours en espagnol. Ça fait, il est en Angleterre à City depuis 2011.
Est-ce que Neymar parlera un jour français?
C'est pas gagné non plus.
Zlatan n'a jamais vraiment appris français.
Enfin, Zlatan est resté moins longtemps. Et puis bon, c'est vrai.
C'est un pays de merde en plus.
Je sais pas si Zlatan dans l'adaptation et qu'on s'y renvoie, c'est
bien sûr.
Alors pas va tous en même temps.
Zlatan, c'est pas le joueur qu'on prend tout de suite comme exemple en disant voilà, il a tout fait bien partout. Même si c'est un grand professionnel, il va pas faire des efforts superflus à ses yeux, quoi. Donc parler français.
Allez, il reste quoi, Bale, 30 secondes, 40
Bale,
secondes.
Bale, ça a été un des soucis de Zidane, faut pas l'oublier, hein. Parce que Zidane, ça a vraiment été un combat pour lui de lui expliquer, en gros, je veux pas l'utiliser, je t'utiliserai à certains moments, etc. Et ça fait partie aussi de tous les reproches que pouvait avoir Zidane aussi à la fin de son mandat en se disant bon, je veux plus me retrouver avec tous ces problèmes-là, quoi.
En revanche, ça marche fort pour un autre chouchou de Florentino Pérez, un certain Karim Benzema qui porte le brassard de titulaire,
Benzema,
qui continue à marquer, qui marque comme jamais à Madrid.
On peut penser ce qu'on veut, mais il assume ses responsabilités. Exactement. Il est présent quand il le faut.
Il a remplacé Cristiano Ronaldo.
Voilà. Il ne fait pas la tête comme Gareth Bale.
Carton vert donc pour Karim Benzema. Merci Karine Galli, Hervé Penaud, Alejandro Valente et Selim Bongali. Radio Foot revient demain, bien sûr, même lieu, même heure, avec un retour tant attendu, celui de la dame Annie Gasnier. Ciao, bonne soirée sur RFI.